Vous écoutez RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. RTL.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane.
Born on the bayou.
La curiosité est un vilain défaut.
Born on the bayou.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un voyage en Louisiane que l'on vous propose maintenant dans la curiosité. Voyage à la Nouvelle-Orléans avec nos invités, le photographe Bernard Herrmann qui publie Bon temps roulé chez Albin Michel et l'écrivain Sylvain Tesson qui en signe la préface. Vous avez vécu à la Nouvelle-Orléans, Bernard Herrmann, c'est ça? À quelle période? Fin des années 70?
Tout à fait, 79. Je suis arrivé au début 79 et j'en suis reparti qu'en fin 82. Ça fait 4 ans.
4 ans passés là-bas à faire des photos, beaucoup de photos magnifiques que l'on découvre dans ce livre. Pourquoi il paraît aujourd'hui, Sylvain Tesson? Vous avez découvert les photos de Bernard Herrmann un jour et vous vous êtes dit quoi?
Non, Bernard Herrmann est un ami d'ancienne date et je connais son travail de photographie qu'il a rapporté, comme il vient de le dire, de la Nouvelle-Orléans au début des années 80. Je connais ce travail depuis longtemps et c'est un travail qui m'a toujours beaucoup fasciné. D'abord parce que c'est une vision patrimonial, cette Nouvelle-Orléans-là n'existe plus. Le monde, entre-temps, 40 ans ont passé, qui ont standardisé le monde, qui l'ont mondialisé. Il n'existe plus cette espèce d'efflorescence extraordinaire de caractère, de costume, de
couleur,
mode de vie. Oui, bien sûr, de couleur,
de bruit, de musique.
D'ethnie qui se frôlent, qui parfois se mélangent, mais qui souvent coexistent. Et puis, deuxièmement, c'est un travail qui a une dimension artistique qui, moi, m'a toujours fasciné, parce qu'on sent pulser la musique, la folie, la violence et l'indolence, ce qui ressemble un peu à Herrmann.
Bernard Herrmann, le carnaval, il y a 40 ans, la Nouvelle-Orléans, c'était quoi? Une respiration dans l'année?
C'est plus que ça, c'est carrément l'architecture, l'architectonique de la ville. Depuis les temps créoles, les Français ont célébré le carnaval. C'était la frontière nord de la zone carnaval. Il faut comprendre que le carnaval, c'est d'abord une zone latine et catholique qui descendait jusqu'à Rio. Et après, quand la ville est devenue américaine, les Espagnols, puis les Américains, noirs et blancs, tout le monde a toujours fêté le carnaval.
Mais ça dure combien de temps? Ça dure
une semaine, comme partout, comme dans tous les pays. Comme
donc ça,
Rio,
c'est pareil.
Comme aux Antilles, il y a les cendres, il y a toute une structure d'événements.
Mais ce que vous racontez dans votre livre Bon temps roulé, qui est publié aux éditions Albin Michel, c'est que c'est quand même une respiration au sens où les flics laissent un peu faire, c'est ça, pendant la semaine du carnaval?
Laisser le bon temps rouler, c'est faire la fête.
Ouais.
Donc c'est une ville qui a un climat oppressant, qui est la ville, quand j'y étais, mais ça a l'air d'être le cas à nouveau, était la ville la plus dangereuse au plan du nombre de meurtres par tête d'habitants. C'est une ville excessivement dangereuse. Donc, une ville très pauvre. Quand j'y étais, il y avait 2/3 de Noirs, qui étaient évidemment un prolétariat. Donc, tout ça, c'était très pesant. Donc, les armes sont partout. Donc, le Mardi Gras, le carnaval, c'est un peu l'échappatoire. C'est la respiration, comme vous dites.
Et qui l'organisait, ce carnaval?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une structure qui dure toute l'année. C'est pas une semaine, le carnaval. Par exemple, l'aristocratie blanche, qui tient la ville, profite des structures de carnaval pour faire son bal des débutantes, pour faire, sous un prétexte ludique, c'est véritablement la structure sociale de la ville qui se montre et c'est beaucoup plus complexe et qui n'est pareil.
Mais c'est toujours comme ça aujourd'hui ou c'est la Nouvelle-Orléans d'il y a 40 ans dans laquelle vous avez vécu, Bernard Herrmann?
Moi je suis ça sur le net, je pense que c'est toujours comme ça. Il y avait un club qui s'appelle le Crew. Le Crew, c'est l'association de carnaval qui s'appelait Comus, qui datait de l'esclavage et qui fonctionnait comme une société secrète. Les Noirs ont demandé que ça soit, parce que c'était vraiment un peu outrancier, et ils l'ont réinstitué. Donc c'est tellement entrer dans les gènes néo-orléanais que personne ne touche au carnaval.
En fait, il y a des clubs, c'est ça,
qui sont des associations de carnaval.
Et il y en a un qui s'appelle le Zulu, c'est ça? C'est les plus anciens, les plus importants?
C'est pas tout à fait ça. Il y avait le club Rex, qui était le club blanc prédominant, l'aristocratie blanche. Et quand les lois de Jim Crow, la ségrégation s'est implantée, ils ont fait un équivalent noir. Et par dérogation, ils les ont appelés les Zoulous. Ce qui fait que les types étaient obligés de se faire un maquillage facial, comme les Black Minstrels, un maquillage noir et blanc un peu ridicule, et des jupes de paille, et ils jouaient les Noirs Congo, ils jouaient les Nègres Congo.
D'accord.
Alors on leur laissait une place, mais à condition qu'ils se ridiculisent. Alors le club Zoulou est le plus important des clubs de la communauté noire.
Sylvain Tesson, quand vous découvrez les photos de carnaval de Bernard Herrmann, qu'est-ce qu'elles vous inspirent?
Ça fait partie de ces photos qui possèdent leur dimension dimension artistique parce qu'on entend la musique quand on les voit. Et ce que vient d'expliquer Herman est important dans la mesure où la musique dans la Nouvelle-Orléans d'hier et d'aujourd'hui est finalement l'exutoire à cette espèce de souffrance probablement que connaît la ville. Mm-hmm. C'est une ville de douleur, il vient de l'expliquer. D'ailleurs, dans le texte qui accompagne ces photos, on sent qu'à la Nouvelle-Orléans, je cite ces mots, « on y vit et on y meurt ». Au-dessus de la ville plane l'ombre terrible du pénitencier d'Angola.
Ouais. Dans lequel vous êtes allé d'ailleurs.
Dans lequel est allé et dont la description constitue l'un des chapitres du livre. Mmh. Et ce pénitencier accueille un nombre de détenus qui, aux trois quarts, sont condamnés à y mourir. Et donc cette ombre terrible qui plane sur la ville, elle représente toute cette violence, cette douleur, cette souffrance qui tout à coup va trouver son exutoire et son échappatoire et sa soupape dans l'espèce d'exultation épileptique et frénétique. Mmh. Herman dit que le bayou tout d'un coup est en feu, qu'il y a l'incendie.
C'est pas moi qui le dis, c'est fire on the bayou. Voilà, le bayou flambe.
L'incendie des corps, l'incendie des esprits et l'incendie des âmes qui tout à coup fout le feu à la ville. Mais la musique ne s'exprime pas et n'explose pas uniquement pendant le temps du carnaval, mais également au moment des messes syncrétiques entre les chrétiens et le vaudou, et également pendant les grandes funérailles qui accompagnent les morts jusqu'au cimetière.
Herman, il y a une photo extraordinaire dans votre livre. C'est une photo où on voit un visage d'Indien avec des plumes, des pierres précieuses autour de lui, blanches. On voit le contraste entre sa peau noire et son déguisement blanc.
À la Nouvelle-Orléans, les Indiens de Mardi Gras, ce ne sont pas des Amérindiens ethniques. Il faut bien comprendre, il y a eu un destin commun entre les Noirs, esclaves et affranchis, et les Indiens. Mais ça, ce sont des gens qui décident de masquer indiens, comme on dit, dans leur quartier. Là, vous avez l'œil bionique, parce que vous êtes tombé sur Tutti Montana, qui était le plus grand chef indien.
Extraordinaire, cette
qui
photo.
Qui ne supportait aucun photographe. Moi, pendant un an, j'ai essayé de le photographier, j'ai pris des coups. Ils étaient farouchement anti-blancs. Ils sortaient deux fois par an, ils cousaient eux-mêmes leurs costumes, ce qui est un travail et une dépense absolument hallucinante. Un peu comme à Rio, où les gens cousent leurs costumes simplement pour une semaine de fête. Mmh.
Et après les infos, on continue de découvrir la Nouvelle-Orléans.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Rebonsoir les curieuses et les curieux. Merci encore de passer cette soirée de réveillon avec nous. Vous êtes des convives délicieux, on tenait à vous le dire.
J'ai ouvert le nœud pape un peu
quand même.
Vous êtes
un peu lâché là.
Je suis décoincé là.
Allez, tout à l'heure, on part à la découverte d'îles mystérieuses.
Et tout de suite, retour en Louisiane pour le carnaval de la Nouvelle-Orléans.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans la curiosité, on visite la Nouvelle-Orléans grâce au photographe Bernard Herman qui publie Bon temps roulé chez Albin Michel et à l'écrivain voyageur Sylvain Tesson qui en signe la préface. Dans votre livre, Bernard Herman, vous publiez des photos d'enterrements, de funérailles, notamment celle d'un musicien, peut-être le plus célèbre musicien de la ville quand vous y étiez, Henry Roland Bird, alias Professeur Longhair. Bernard Herman, c'est quoi l'histoire de ce musicien ?
Bon, d'abord, Professeur, c'est un titre qu'on donnait aux pianistes traditionnellement à la Nouvelle-Orléans. Longhair, parce qu'il avait des vagues petites bouclettes. Et dans les années 60, il était connu des Stones, des
c'est
Beatles.
C'est lui-là.
Professeur Longhair, oui. Voilà.
Ça, c'était à Nice. C'était au Festival de Jazz de Nice, il était venu en France.
Il était universellement connu et il est toujours, 35 ans après sa mort, il a un style de piano très particulier et il a une pompe de main gauche qui est telle qu'après deux ou trois accords, tout le monde le reconnaît professeur et tout le monde se met à danser. C'est vraiment un personnage atypique qui hurlait, qui faisait des sifflements, qui était un type charmant.
Et comment se passent les funérailles d'un personnage comme celui-là ?
Alors lui, les funérailles en musique, j'en ai vu partout dans le monde.
Oui.
En Amérique, les Chinois de New York le font, dans le monde entier. Ce qui est plus typique de la Nouvelle-Orléans, c'est le jazz. C'est-à-dire que la fanfare qui marche produit un jazz tonitruant. Et que quand on a accompagné le défunt au cimetière, on revient en affirmant la suprématie de la vie sur la mort, oui, en dansant d'une façon frénétique. Ce qui n'existe pas dans les autres formes de funérailles en fanfare.
Mais aujourd'hui, quand même, pour la population, les enterrements se font souvent sous forme de procession.
C'est ça. Par contre, vous pouvez avoir un blaster dans un 4x4 au lieu d'un
orchestre. Oula, c'est
quoi
un blaster ?
Oui. Bon, c'est en train de dégénérer à grande allure. Mmh. Ce que je dois dire absolument pendant que j'y pense, c'est que ce sont vraiment les derniers feux que j'ai capturés, les derniers feux d'une tradition qui évoluait depuis la guerre de Sécession et qui maintenant est complètement disparue.
Et c'était dans les années 80. Ouais.
Voilà, et moi je cherchais à montrer des choses intemporelles qui auraient pu être prises dans les années 50 et 60. Mmh. La vêture des gens, tout était volontairement rétro.
Sylvain Tesson, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville d'eau, évidemment, qui a été construite entre un fleuve et un lac, le Mississippi et le lac Pontchartrain, c'est ça ?
C'est ça.
C'est une ville d'impermanence, en quelque sorte ?
Oui, Herman l'explique bien dans son texte, d'ailleurs. C'est peut-être la capitale de l'éphémère. Nous sommes là dans un bayou qui est composé de je ne sais pas combien, tu dis les chiffres, mais qui est une statistique extravagante qui correspond à peut-être trois quarts de la surface qui est construite sur des marécages et de la rivière et des terrains humides. Donc tout est impermanent dans cette ville. Mmh. Or, il n'y a que l'impermanence qui est permanente. Mmh. Tout est destiné à mourir. Tout est éphémère. Et d'ailleurs, on donne... Herman cite beaucoup de noms, de toponymes qui s'attachent à la dénomination de la Nouvelle-Orléans, et notamment la tombe humide, des noms qui font référence à cette espèce de pourrissement permanent de la ville.
C'est un lieu de la ville, la tombe humide, c'est un lieu dit,
c'est ça? Non, c'est pas une toponymie, c'est un surnom.
Un synonyme c'est un surnom pour la Nouvelle-Orléans.
Voilà. On l'appelle la tombe humide et on croise très souvent dans l'argot des populations que rencontre Herman, qu'ils soient les Afro-Américains, les gens de couleur libre ou les Indiens, on croise très souvent des références à cette espèce de monde qui est en voie de pourrissement, d'effacement. La mort est là. D'ailleurs, Herman, dans son texte, dit souvent que, par exemple, le pénitencier pue la mort et qu'il faut retourner dans l'espèce de frénésie de vie du centre-ville pour affronter la vie avec tout ce qu'elle a de violent, tout ce qu'elle a d'humide, toute sa torpeur, toute sa langueur, tout son pourrissement, toute sa putridité qui fait qu'on est là-bas à la fois dans la fête, mais évidemment dans la mort.
Bernard Herman, quand vous êtes arrivé à la Nouvelle-Orléans à la fin des années 70, Ernest Dutch Morial venait d'être élu comme maire. Pourquoi c'est un événement ?
C'est un événement parce que c'est la première fois depuis toujours, depuis trois siècles, qu'un noir, entre guillemets, était élu.
Pourquoi vous dites entre guillemets ?
Parce que c'est un descendant d'hommes libres de couleur et la communauté des gens libres de couleur sont devenus, moi je le sais, j'ai un ancêtre qui était un médecin qui avait les premiers journaux noirs de la Nouvelle-Orléans et qui était à peu près... qui avait quelques gouttes de sang noir.
Oui.
Donc il avait des pratiques dans la haute société blanche sans problème jusqu'à la fin de la guerre de sécession où il est devenu nègre. Mm. J'utilise ce mot exprès pour dire que tout d'un coup, quelques gouttes de sang noir faisaient de vous un nègre.
Et donc pour ce nouveau maire de la Nouvelle-Orléans, fin des années 70, c'était pareil. En fait, il avait un tout petit peu de sang noir.
Il était probablement trois quarts blanc, un quart noir. Mm. Donc c'était la première fois qu'il y avait un maire noir, ça voulait dire que toute l'administration de la ville était passée aux mains des noirs. Et la police, les policiers blancs qui étaient évidemment très réactionnaires, vous voyez d'un mauvais œil les noirs prendre le pouvoir.
Mais pouvoir politique, il était entre les mains des noirs ou des blancs ?
Eh bien c'est une bonne question, le pouvoir politique était...
Et le pouvoir économique aussi.
Exactement ce que j'allais dire, le pouvoir politique était une chose, mais le business du business, c'était aux mains des blancs. Et l'establishment de blancs avait fait nommer un surintendant de police qui venait d'Alabama, qui était véritablement un rétrograde pour tenir l'euphorie potentielle des noirs calmement. Mmh. Donc c'était une période de tension.
Votre livre de photos ça s'appelle Bon temps roulé aux éditions Albin Michel. Bon temps roulé, c'est un joli titre, ça veut dire quoi ?
Eh bien c'est une expression cajun, il faut comprendre que les cajuns étaient donc des acadiens francophones du Canada qui au XVIIIe siècle, dans ce qu'ils ont appelé le grand dérangement, qui est une belle formule, ont été chassés. Donc certains sont partis un peu partout, et quand ils sont arrivés en Louisiane, puisqu'on y parlait français, on les a relégués dans les bayous, qui était le seul endroit où ils avaient encore une possibilité de s'implanter. Dans ces bayous n'existaient que des noirs marrons, c'est-à-dire des esclaves noirs évadés, et des Indiens. C'était un endroit un peu maudit. Et les Cajuns ont réussi en deux siècles à imposer une culture très importante dans la culture louisianaise, avec une cuisine de fruits de mer étonnante, une musique magnifique.
Alors, bon temps roulé, c'était leur...
leur expression pour dire laisser la vie, laisser la vie couler, laisser la bringue, faire la bringue, se la couler douce, bon.
Et c'est cette Nouvelle-Orléans d'un mot, Sylvain Tesson, dont on a la nostalgie aujourd'hui, dont vous avez la nostalgie aujourd'hui.
Oui, c'est pas vraiment une nostalgie qu'exprime Herman, parce qu'il dit simplement que ce peuple-là, on ne le reverra plus, que Katrina d'abord a tout balayé pendant que les forces de sécurité, correspondant à notre sécurité civile, étaient employées à résoudre, ou peut-être même à créer le problème de l'Orient. C'était en 2004 ou dans les années 2000. Donc tout ça n'existe plus, et c'est simplement ce constat que fait là Bernard Herman, et en couvent qu'il a réussi, je ne sais pas comment, d'ailleurs par quel miracle, à se couler dans cette espèce de Babylone, comme il l'appelle, qui était la Nouvelle-Orléans, la Babylone avec du blues, et à réussir à survivre pour nous apporter ce livre.
Il est magnifique ce livre, Bon Temps Roulé, publié chez Albin Michel.
Vous écoutez RTL.